Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre émission Conso et Retail. Au programme de cette émission, les femmes dirigeantes dans le retail. On en parle dans un instant avec Justine Hutto, CEO et cofondatrice de la marque Respire. Quelles ont été les actions mises en place par les marques cette semaine à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes? Tour d'horizon tout à l'heure avec notre journaliste Eva Jacot. Quelles sont les marques qui encouragent l'émancipation féminine? Comment accélérer le mouvement de la mixité au sein des équipes dirigeantes? On fera le point tout à l'heure avec notre experte Laure Frémicourt, directrice générale adjointe d'Altavia Disco. Et puis en seconde partie, ce sera notre start-up cette semaine, c'est Cultive, des soins cosmétiques formulés à partir d'actifs de plantes cultivées par les agriculteurs. On en parlera avec sa cofondatrice Laure-Anne de Tasse. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Justine Hutto, cofondatrice de Respire, nous rejoint.
Focus Retail, l'interview.
J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Justine Hutto. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de la marque de soins cosmétiques Respire et à mes côtés également Laure Frémicourt, directrice générale adjointe d'Altavia Disco. Alors c'est encore une marque toute jeune à Respire. Ça fait seulement 3 ans que vous êtes sur le marché. Depuis le début, vous avez voulu être au plus près de votre communauté et cette proximité que vous avez instaurée pousse aussi des femmes à vous demander conseil pour se lancer elles aussi dans l'entrepreneuriat. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, vous avez invité une femme donc, au sein de la maison Respire. Vous avez une sensibilité particulière sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe lors de cette journée?
La Journée internationale des droits des femmes, c'est une journée dans l'année, mais en fait, c'est, on doit y penser toute l'année finalement. Mais ça fait des décennies que des femmes se battent pour qu'on ait les mêmes droits que les hommes. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Alors bien sûr, on a gagné de plus en plus de droits, mais il y a encore des inégalités. Et donc, à mon échelle, si on regarde le prisme entrepreneurial, je regardais des chiffres ce matin, c'est 27% des startups qui sont cofondées ou fondées par des femmes. C'est seulement 12% des ETI et PME qui sont dirigées par des femmes. Donc en fait, il y a encore des inégalités. Et j'ai eu cette chance de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai eu peut-être ce courage, cette impulsion qui m'a aussi été donnée par mon entourage. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui me contactent au quotidien pour me demander des conseils, pour me demander du mentoring. Malheureusement, je suis chez Respire au quotidien, donc je n'ai pas le temps d'aider toutes les femmes. Mais pour cette Journée internationale des droits des femmes, je me suis dit, si on peut essayer de pallier un petit peu à ces inégalités à mon échelle et inviter une personne, une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat ou qui a déjà un projet entrepreneurial et qui souhaiterait venir chez Respire pour rencontrer nos équipes, pour nous poser des questions, pour prendre des conseils, et ben je le ferai avec grand plaisir. Donc on a lancé ça sur les réseaux sociaux ce matin et j'attends de voir s'il y a des femmes qui veulent venir nous rencontrer.
Et que dites-vous à ces femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Quels conseils lui donnez-vous?
Il y a tellement de conseils que j'aimerais donner à ces femmes, mais j'ai envie de leur dire d'oser y aller, parce qu'en fait souvent la peur en tant que femme, c'est ce syndrome de l'imposteur, de se dire je suis pas capable, je vais pas y arriver, et de se dire, moi c'était exactement ma position il y a 5 ans, hein. Je me disais, en fait j'ai pas du tout toutes les clés aujourd'hui pour me lancer, je connais pas tout, donc j'y arriverai jamais. Et en fait, il faut être capable de bien s'entourer, de trouver les bonnes personnes pour nous donner des conseils. Ensuite, quand on structure son entreprise, on recrute des gens qui sont largement meilleurs que nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller de l'avant. Et puis, il faut tester des choses. De toute façon, c'est en testant des choses qu'on va rater, mais qu'on va surtout apprendre et du coup améliorer. Donc, il faut oser. C'est vraiment ce que je leur dis.
C'est vrai que vous vous êtes associé à un homme, finalement, pour monter Respire. C'est Thomas
Méheux,
c'est ça? Et d'après vous, dans quel domaine une femme gère son entreprise différemment?
Alors les hommes et les femmes sont vraiment faits différemment. Il y a un livre qui dit les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Il me semble que c'est ça ou l'inverse. Bref, parfois on se demande si on vient vraiment de la même planète. On est assez différents dans nos manières d'agir. Après, c'est pas exactement vrai dans tous les cas. Mais nous, en tout cas, avec Thomas, on est extrêmement complémentaires. On n'a pas vraiment la même manière de travailler, de gérer nos équipes, d'échanger même avec les équipes. Et moi, je trouve que c'est une vraie chance d'être associé un homme et une femme, parce que du coup, on arrive à se compléter et à avoir des inputs et des idées vraiment différentes. Après, j'admire énormément plusieurs femmes entrepreneurs qui se sont lancées seules.
Vous pouvez nous donner des noms.
Bah, Carole de June, par exemple, qui s'est lancée seule, et je trouve ça impressionnant et je l'admire beaucoup. Moi, en tout cas, je suis très contente d'être associée à un homme. Après, je pense que j'aurais pu aussi m'associer à une femme. Et si un jour, il y a un autre projet après Respire, on ne sait pas.
Bon, quoi que respire, peut-être c'est un duo féminin.
Peut-être que je serai avec une femme.
Vous pensez que c'est plus difficile en tant que femme de chercher des fonds lorsqu'on est une start-up ? Quels ont été les premiers retours lorsque vous avez pitché devant des investisseurs ? Est-ce qu'il y a parfois des blocages ?
Est-ce que c'est plus difficile ou pas ? J'ai pas vraiment la réponse et j'ai pas envie de dire oui. Quand on regarde les chiffres, on a l'impression que oui, en effet, donc 27% des startups qui sont cofondées ou fondées par des femmes, mais seulement 12% des fonds qui sont levés sont attribués à ces entreprises fondées par des femmes. Donc on voit qu'il y a un vrai problème dans les chiffres. Après, quand on est une femme et qu'on va pitcher, moi ça m'est déjà arrivé de pitcher devant des investisseurs femmes. D'ailleurs, à notre capital, la majorité des investisseurs qui sont là sont des femmes et j'en suis très fière. Mais il arrive très souvent qu'on puisse se confronter à des fonds d'investissement ou même des grands groupes ou peu importe, des family office qui sont dirigés par des hommes qui ne sont pas spécialement de ma génération, mais la génération d'avant et qui peuvent se comporter de manière un peu machiste avec les femmes. Après, ne faisons pas d'un exemple une généralité, bien sûr. Moi, j'ai pas eu le sentiment, en tout cas, dans mes différents échanges avec des investisseurs, d'être vraiment mise de côté parce que je suis une femme. Donc, j'ai envie de donner confiance aux femmes.
Non, mais en effet, moi, c'était aussi le sens de ma question. On sait que les startups sont un milieu plutôt masculin, et c'était pour savoir si vous aviez déjà ressenti, on va dire, en tout cas, ces difficultés ou cette complexité, on va dire, dans votre expérience personnelle.
Alors oui, je l'ai déjà ressenti. J'ai déjà rencontré des hommes qui avaient des comportements où je sentais qu'en fait, heureusement que j'étais avec Thomas ou Guillaume, qui est notre CEO chez Respire, parce que je sentais que c'était des hommes qui préféraient parler à des hommes, qui préféraient demander les chiffres à des hommes. Et donc, parfois, quand ils nous parlaient, on avait beau être tous les trois assis. En fait, ils regardaient droit dans les yeux les hommes. Et puis moi, ils passaient au-dessus de ma tête et j'étais là, mais c'est pas possible, je vais m'exprimer. En fait, ils ne m'écoutent pas. Donc, c'est déjà arrivé. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est à toutes les femmes, faut se dire qu'on est à notre place. Moi, en tout cas, en tant que fondatrice de Respire, je suis fière de ce qu'on a accompli aujourd'hui. Alors oui, je subis encore de temps en temps le syndrome de l'imposteur, mais j'ai envie d'être fière et j'ai envie de montrer que je sais ce que je fais, que je maîtrise également les sujets opérationnels, financiers, même si je suis pas dedans au day-to-day, en tout cas dans le financier, et que c'est un homme qui gère chez Respire. Mais ouais, faut juste qu'on ait confiance en nous et qu'on se dise on vaut autant qu'eux, en fait. Il y a l'égalité des sexes.
Et est-ce que la marque Respire a vocation à devenir une marque engagée auprès des femmes ou des droits des femmes globalement, ou pas forcément, et pour quelles raisons peut-être ?
Selon moi, Respire est déjà une marque engagée depuis le départ, puisqu'en tant que femme entrepreneur, fondatrice, qui incarne la marque depuis le départ, j'ai cette envie d'accompagner, d'embarquer, d'inspirer les femmes à y aller, et c'est une de mes plus grandes fiertés. Il y a pas mal de femmes qui m'écrivent régulièrement sur les réseaux sociaux pour me dire « je me suis lancée, tu es mon inspiration ». J'ai écrit un livre qui est sorti il y a un an, « Rêver, oser se dépasser », aux éditions Marabout. Et dedans, je raconte mon parcours entrepreneurial. Et il y a pas mal de femmes qui l'ont acheté, mais aussi des hommes. Hein, ils ne s'adressent pas que aux femmes. Et qui l'ont lu et qui m'ont dit « ça m'a vraiment donné l'impulsion qui me manquait ». Donc oui, on est engagés au quotidien pour inspirer les femmes.
Alors, la mission de la marque Respire, c'est de proposer des produits avec des formules clean, naturelles, des produits aussi efficaces. Pour compléter votre gamme de 6 déodorants, vous avez sorti un nouveau déo stick à base de menthe d'eucalyptus, c'est ça ?
Menthe eucalyptus.
Menthe eucalyptus.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il y a de différent des autres ? C'est peut-être une demande de votre communauté ?
Alors, tous les produits qu'on développe chez Respire sont des produits qui ont été demandés par notre communauté. On co-crée tous les produits avec la communauté, donc ça passe par leur demander ce qu'ils souhaitent comme produit, quel type de texture, quel type de packaging. Et ensuite, on a créé une communauté qui s'appelle La Ruche Respire. C'est aujourd'hui 600 personnes, mais ça, j'ai une volonté de vraiment faire grandir cette communauté. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous souhaitez rentrer dans La Ruche Respire, c'est un compte Instagram privé, La Ruche Respire. Il faut demander à entrer dedans, donc vous nous écrivez en message privé. Et toutes ces personnes sont au courant de tous nos projets de développement et ils testent tous les produits qu'on développe avant de les lancer sur le marché. Ça nous permet de ne lancer que des produits qui sont demandés par cette communauté. Donc, un, on est sûr d'avoir un haut taux de repeat derrière et que nos produits vont se vendre. Et de deux, ça continue de construire et de nourrir la brand avec cette communauté. Donc le déodorant stick menthe eucalyptus, donc là j'ai ici le rose pivoine dans les mains, qui était un déodorant stick qui a été développé en exclusivité pour les pharmacies, donc co-créé main dans la main avec les pharmaciens.
Ça c'est votre best-seller?
Ça c'est un de nos best-sellers, exactement. En tout cas le déo stick est notre best-seller. Pourquoi? Parce que c'est un déodorant 100% d'origine naturelle, certifié bio, mais surtout avec le claim efficacité 48 heures, donc extrêmement efficace. C'est un déodorant en stick, donc qui se pousse dans un pack carton, donc zéro plastique. Et le menthe eucalyptus, c'était une demande de la communauté plutôt masculine, même si tous nos produits chez Respire sont mixtes. La communauté masculine disait « j'aimerais un parfum un peu plus frais, un peu plus végétal, un peu plus puissant ». Et donc, on a développé ce parfum pour eux, qu'on retrouve en photo juste ici. Et en fait, ça nous permet aussi, d'un point de vue retail, d'être chez Monoprix et d'aller dans le rayon homme déodorant, puisque aujourd'hui on n'est que dans le rayon femme, mais on a déjà 12% de part de marché sur les déodorants femmes dans ce rayon. Donc à nous maintenant le rayon homme.
Donc votre mission c'est de développer ces produits unisexes et de développer votre présence au sein des rayons hommes.
Alors, développer vraiment notre présence au sein des rayons hommes, oui et non, puisqu'il y a des hommes qui viennent dans ce rayon femme et qui viennent les chercher, mais en tout cas d'offrir une gamme de soins naturels haute performance pour toute la famille, autant hommes que femmes, pour les enfants, plutôt à partir de 3 ans. En tout cas, le déodorant, je le déconseille pour les enfants. Enfin, on n'en met pas quand on a que 9 ans. Mais vous pouvez, il y a beaucoup de parents qui me disent, mon adolescent, voilà, il commence à transpirer un petit peu. Et donc, je lui ai acheté le déodorant Respire parce que je sais qu'il est sûr. Donc, on a cette volonté aussi vraiment d'aller toucher toute la famille.
C'est uniquement chez Monoprix pour l'instant. Vous avez prévu de vous développer dans d'autres points de vente?
Alors, retail chez Respire, ce n'est pas que Monoprix, c'est principalement notre site internet, respire.co, où on fait 45% de nos ventes aujourd'hui. Et ensuite, c'est 3000 points de vente où on a Monoprix, la GMS Premium, où on peut retrouver nos produits, et c'est vraiment là où nos consommateurs nous recherchent. Deux, on a le Beauté Sélectif avec Sephora, Marionneau Nocibé également, où on peut retrouver nos produits. Et puis, la pharmacie, qui est un gros axe de croissance pour Respire. On est aujourd'hui dans 1000 pharmacies, et il y a de plus en plus de pharmaciens qui demandent à référencer la marque. Pour nous, ça apporte une vraie caution médicale, et en tout cas, pour les pharmaciens, ils nous disent qu'il y a de plus en plus de patientèle qui vient en officine et qui recherche des produits naturels, sains, bio, mais surtout très efficaces, et avec des engagements éco-responsables. Et en plus, nos produits qui sont assez colorés ressortent pas mal en officine à côté de pas mal de marques qui sont quand même très blanches.
Alors, vous avez testé un service d'abonnement depuis votre création. Quelles sont les retombées aujourd'hui? Est-ce que ce service d'abonnement fonctionne? Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration?
Le service d'abonnement aujourd'hui chez Respire, ça permet vraiment de créer un repeat très clair avec nos consommateurs. Et donc, il y a, je crois qu'aujourd'hui, c'est 4000 personnes qui sont abonnées et tous les mois qui reçoivent nos shampoings, nos déodorants, nos dentifrices. Parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs majoritairement des hommes, en fait, qui sont abonnés. Je pense que les hommes, ils ont envie de passer moins de temps à aller fouiller sur le site internet pour aller mettre dans son panier les nouveaux produits. Et donc, ils sont abonnés, ils reçoivent tous les mois nos produits.
Alors?
Peut-être en termes de retail, en effet, la pharmacie, ça vous permet d'adresser des nouvelles cibles, vous pensez, finalement, surtout? Ou c'est des cibles complémentaires que vous touchiez pas avec vos points de vente habituels? Ou c'est peut-être juste, finalement, plus d'occasions de vous rencontrer et donc de vous aimer, peut-être?
Alors, chaque point de vente qu'on a sélectionné chez Respire a été vraiment minutieusement choisi. On a eu énormément de demandes entrantes de grands acteurs, notamment de la GMS. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est surtout raconter l'histoire de Respire, s'assurer que la marque continue de vivre en rayon. Puisqu'on est une marque quand même qui raconte qu'on est co-créée, qui raconte l'histoire aussi de la fondatrice en l'occurrence, donc de moi, liée à un pépin de santé. C'est comme ça que j'avais décidé de lancer la marque. Donc on souhaite raconter vraiment la marque en rayon, et chaque point de vente évidemment est un canal d'acquisition, puisque chaque personne qui passe chaque jour devant les tablettes, que ce soit de supermarché, de pharmacie, peu importe, et qui voit nos produits, a un point de contact avec nous au-delà des réseaux sociaux et de notre site internet.
Combien d'abonnés sur les réseaux sociaux aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est 500 000 personnes qui nous suivent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Donc j'espère beaucoup de femmes qui auront envie de venir nous rencontrer pour prendre des conseils d'entrepreneuriat.
Merci beaucoup Justine Hutto. Je rappelle, vous êtes créatrice de la marque Respire. On passe tout de suite au journal du retail avec notre journaliste Eva Jacou.
Focus Retail, le journal du retail.
Et pour la journée internationale des droits des femmes, les marques se sont mobilisées. Vous nous avez préparé une petite sélection, Eva.
Oui, on commence avec Bache qui a lancé Women Are Fundamental, une capsule à but non lucratif pilotée par les deux fondatrices de la marque avec une dizaine de personnalités féminines. Alors on trouve entre autres un sweatshirt bleu roi et un t-shirt vendu à 165 et 50 €. Alors tous les bénéfices seront reversés à l'Institut de santé Women Safe and Children. La marque lance aussi un programme philanthropique Fun and Action pour créer des opportunités socio-économiques pour les femmes en France et dans le monde.
Et il y a aussi Mango qui lance un programme avec l'association Save the Children.
Oui, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, eh bien Mango a lancé le projet Goals avec son ambassadrice, la footballeuse Alexia Putellas, d'abord au Bangladesh et à présent en Turquie. La marque consacre 500 000 € à l'éducation et au sport pour les travailleuses du textile et leurs enfants. Et en parallèle, un t-shirt a également été créé et les bénéfices permettront de soutenir ce projet.
Il y a aussi la marque de prêt-à-porter Etam qui a organisé une opération spéciale pour soutenir les femmes dans le besoin.
Oui, une opération intitulée Soutien-gorge suspendu au profit de l'association Solidarité Femmes avec laquelle la Griffe est engagée depuis 2018. La marque s'engage à offrir un soutien-gorge à une femme dans le besoin pour tout achat d'un vêtement ou d'un sous-vêtement ou d'une robe en ligne ou en magasin.
Et vous allez nous parler désormais d'une marque de cachemire qui s'est associée à l'instagrammeuse Mamouze.
Oui, Mamouze, de son vrai nom, Julie Mamoumani, c'est l'ambassadrice de la Maison des Femmes, fondée par Gaha Hatem en 2019. Elle collabore avec Duten à l'occasion de cette journée. Lovez-vous est écrit en gros caractères sur un t-shirt tie and dye, en vente sur le site en ligne et en magasin. 85 €, dont une partie reversée à la Maison des Femmes.
Et côté grande distribution, Monoprix s'engage auprès de la Fondation des Femmes.
Oui, avec la comédienne Julie Gaillet, Monoprix a imaginé une collection capsule pour la mode et la décoration. Une initiative qui permettra de reverser 20% du chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la vente de t-shirts, de mugs, de tote bags à la Fondation des Femmes. Les clients qui le souhaitent pourront également réaliser un arrondi en caisse dans l'ensemble des magasins Monoprix.
Et puis on va terminer ce journal avec une actualité retail, le géant Amazon qui ferme un tiers de ses magasins sans caisse aux États-Unis.
Oui, 8 Amazon Go devraient fermer leurs portes le 1er avril prochain. 4 à San Francisco, 2 à New York et 2 à Seattle. Une nouvelle qui intervient suite à la décision du PDG d'Amazon de licencier 18 000 personnes. La division des points de vente physiques munie de la technologie Just Walk Out était particulièrement visée par ces suppressions de postes. Amazon réduit ses coûts. Amazon a d'ailleurs interrompu la construction de son deuxième siège social en Virginie et 7 magasins Amazon Fresh ont vu leur ouverture repoussée.
Merci beaucoup Eva Jacquot. On vous retrouve la semaine prochaine et on passe tout de suite au Focus.
Focus Retail, le Focus.
On va parler de la cause féminine avec vous, Laure Frémicourt. Vous êtes directrice générale adjointe d'Altavia Disco. Car oui, c'était la Journée internationale des droits des femmes cette semaine. Un combat universel qui nous concerne tous. Les industries de la mode et du luxe ont été les premières visionnaires de l'émancipation féminine. On l'a vu hein, par le biais des créateurs, des défilés ou encore des collections.
En effet, historiquement, ce qui est intéressant, c'est que les femmes ont été des grandes visionnaires et des grandes entrepreneuses du monde de la mode et du luxe. Bon, évidemment, on pense à Gabrielle Chanel, mais aussi à Nina Ricci, à Elsa Schiaparelli. Et puis, on peut aussi penser comment elles ont pu réinventer le prêt-à-porter en allant de Sonia Riquel à Agnès B, en passant par Isabelle Marant ou Donna Karan. Finalement, les femmes ont marqué de leur empreinte des histoires entrepreneuriales dans la mode et le luxe. Dans un premier temps, c'est aussi par le design en fait que l'émancipation des femmes s'est jouée. Là encore, on peut parler de Gabrielle Chanel, la manière dont elle a imaginé des silhouettes beaucoup plus fluides, des matières beaucoup plus accompagnantes, a permis de libérer les femmes. Et on peut aussi penser à la manière dont Yves Saint Laurent, lui, en féminisant le pantalon, a évidemment en fait fait passer, on va dire, le pouvoir symbolique de l'homme aux femmes et souvent était évidemment intéressant.
Alors, il y a l'émancipation par le design, mais aussi les messages qui sont parfois portés par des mannequins lors des défilés.
Évidemment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si à un moment, le sujet, c'était le design des produits, aujourd'hui, le sujet, il est plutôt devenu les messages portés par les marques. On peut penser à Dior. Dior qui, en 2017, a porté pour la première fois un t-shirt qui était « We should all be feminist ». Et en 2019, avait un autre t-shirt qui était « If women run the world », par exemple. On peut aussi s'intéresser à la manière dont Gucci prend position, on va dire, sur le sujet des droits des femmes, et notamment le sujet de l'avortement. En 2019, ils avaient créé une robe utérus, en fait, autour de ce sujet. Plus récemment, et dans le contexte évidemment tendu aux États-Unis de l'abrogation de Roe versus Wade, ils avaient évidemment créé une ligne de produits autour de My Body, My Choice pour défendre ce droit à l'avortement. Donc, deux initiatives qui sont intéressantes.
Merci, Laure Frémicourt. On revient tout de suite aux cosmétiques dans la start-up de la semaine.
Focus Retail, le pitch.
Du champ au rayon beauté, c'est le concept de la start-up Cultive créée en 2020. Laurane de Taste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de cette start-up. Votre idée, c'est de puiser dans les cultures agricoles françaises, d'utiliser ensuite ces plantes pour créer des soins cosmétiques. Alors, pour faire court, c'est de l'épinard, de la betterave que vous utilisez, que vous transformez, c'est ça ?
Exactement, l'idée c'est vraiment au départ d'aller chercher ce qui a fait la résistance de ces cultures agricoles françaises, ce qui fait qu'elles résistent, enfin qu'elles grandissent déjà, mais ensuite qu'elles résistent aux aléas météorologiques, climatiques et autres, et d'aller chercher quelles sont les molécules en fait qui leur apportent cette puissance pour pouvoir les transférer à la peau, justement à nos besoins de peau qui sont justement le vieillissement cutané, donc des pertes d'élasticité, des rides, etc. Enfin voilà, on est tous sujets à ça, et en fait dans ces cultures qui sont très proches de nous, parce qu'on est allé vraiment chercher des cultures emblématiques et très génériques de la France, en fait, du paysage français, qui sont, comme vous le disiez, la betterave. On est quand même on est le deuxième producteur au monde, je crois, de betterave. Mais il y a aussi le blé, le lin, le seigle, les épinards, etc., comme vous dites. Et c'est vraiment en allant chercher avec des équipes scientifiques quelles étaient les molécules qui pouvaient être intégrées à des soins pour la peau. Que voilà, qu'on a créé la marque Cultive.
Et vous avez d'ailleurs amené quelques produits de votre gamme ici, sur ce plateau. Quelle est la dernière nouveauté que vous avez sortie ?
Alors, la dernière nouveauté, ce sont des gélules. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir que chez Cultive, on formule à la fois des cosmétiques, donc des soins, que ce soit des crèmes, des sérums, des masques, etc., mais aussi des compléments alimentaires. La raison de ça, en fait, elle est double. D'une part, vous avez une action qui est plus sur les couches superficielles avec la cosmétique et une action en profondeur avec le complément. Donc, du coup, la synergie des deux est vraiment très efficace. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, certains actifs, votre corps ne les assimile pas de la même façon. Donc, par exemple, les antioxydants, si vous les mangez, vous êtes sûr que ça va avoir une efficacité très forte, en fait, sur votre peau. Vous êtes moins certain de cette efficacité si vous l'appliquez sur la peau. Donc, du coup, à chaque fois, on a décidé de choisir une ou deux options. Alors, pour revenir à votre question, pardon, du coup, ce sont des gélules qui vont améliorer l'élasticité de votre peau et réduire vos rides. Donc, vous avez notamment des tests cliniques qui prouvent.
Et ça, c'est à base de quoi ?
C'est à base de blé, d'orge, entre autres.
D'accord.
Donc, céréales.
Et la particularité de la start-up Cultive, c'est qu'elle a été créée par InVivo. Vous travaillez avec des salariés du groupe pour mettre au point ces formulations. Quelles sont les synergies avec le groupe InVivo ?
Alors en fait, au départ, moi, je travaillais pour le groupe InVivo.
C'est ça, vous êtes passé du retail à la fabrication cosmétique.
Exactement, c'est ça.
Comment en fait, on passe du retail à la création ?
Eh bien, alors déjà, parce que le groupe a lancé un appel à projet en disant à ses salariés qu'une des missions du groupe, c'était vraiment de trouver une nouvelle voie de valorisation des cultures agricoles demain pour les agriculteurs. Et donc, en fait, moi, j'étais passionnée de cosmétiques et je voulais en savoir un peu plus sur ces actifs, justement, issus des plantes. Donc, on a lancé une recherche en interne avec des équipes de R&D, effectivement, pour identifier toutes ces molécules intéressantes pour la peau. Et c'est ensuite, c'est à partir de cette étude-là qu'en fait, j'ai monté toute l'organisation d'une offre cosmétique, en fait, qui répond à différents besoins de peau et que je l'ai présentée à InVivo. Et voilà, et au fur et à mesure des discussions, InVivo a accepté de se lancer dans l'aventure avec nous.
J'imagine que le groupe vous soutient financièrement ?
Absolument, c'est l'actionnaire majoritaire.
Est-ce que vous adressez des problématiques de circularité avec le projet Cultive ?
Oui, absolument. Notre priorité de départ, c'était vraiment d'aider les agriculteurs français. Et donc, on fait un sourcing auprès d'eux en France. Nos produits sont constitués à plus de 80% d'ingrédients français et bio. Et puis ensuite, on travaille bien sûr avec d'autres agriculteurs de la chaîne, donc que ce soit des extracteurs, des formulateurs ou des producteurs de cosmétiques et tout ceci en France.
Alors, la marque est en exclusivité chez Nocibé, aussi vendue chez Bio & Co, donc c'est l'enseigne bio d'Invivo. Pourquoi choisir de se développer dans des réseaux spécialisés plutôt qu'en grande surface, en GMS, dans les supermarchés ?
Alors en fait, le positionnement prix de la marque et la particularité des formules fait qu'on devait se positionner sur un circuit sélectif. C'est pour ça qu'on a choisi la parfumerie, les grands magasins et la pharmacie. Donc aujourd'hui, on n'est pas que chez Nocibé, on est aussi chez Marionneau au printemps, un petit peu chez Monoprix. Et puis on rentre sur la pharmacie actuellement.
Voilà, donc un circuit sélectif et un réseau spécialisé. Merci beaucoup, Lauranne Detat. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de la marque Cultive. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
Focus Retail, le chiffre de la semaine.
Et on vous retrouve, Laure Frémicourt, directrice générale adjointe d'Altavia Disco. Donc on l'a dit, hein, cette semaine c'était la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, c'est l'heure de faire un bilan. Est-ce qu'il y a eu une accélération de la féminisation des équipes dirigeantes au sein des maisons de luxe ces dernières années ?
Alors on ne peut pas tout à fait dire ça. En 2023, on peut se dire qu'en fait la plupart des marques de mode et luxe, si elles s'adressent aux femmes, si elles salarient et essentiellement des femmes, pourtant elles sont souvent toujours dirigées par des hommes. Le chiffre qu'on a choisi, c'est que finalement sur les 50 marques les plus influentes de la mode et du luxe, seulement 14% sont dirigées par des femmes. Ce chiffre, il date de 2017, alors on pourrait se dire, on peut peut-être le relativiser. En réalité, les choses ont peu changé depuis lors. On peut peut-être noter l'arrivée de Véronique Courtois à la tête de Guerlain ou celle de Delphine Arnault à la tête de Christian Dior Couture, mais on va dire que le monde n'a pas été remué de bout en bout.
C'est ça, les femmes sont là en nombre, mais elles ne dirigent pas. À quand un véritable tournant pour les femmes dans les entreprises ?
Ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, ces chiffres ils viennent en contraste avec les ambitions chiffrées des groupes, notamment. LVMH, comme Kering, visent à la parité. Kering s'engage pour 2026. Et donc, finalement, la manière dont peut-être ces groupes, ces marques essayent d'adresser le sujet, c'est aussi par des programmes qui sont à la fois corporate, à la fois consommateurs, et qui permettent de finalement faire grandir les femmes. On peut citer entre autres Bold de Veuve Clicquot, qui est plutôt une manière de récompenser, on va dire, des entrepreneuses audacieuses. Mais on peut aussi citer Women at Dior, qui est vraiment un programme, on va dire, de mentoring et d'éducation qui a été conçu en partenariat avec l'UNESCO et qui vise à développer, là encore, le leadership féminin. Et, ou enfin, L'Oréal Bold Female Founders, qui est plutôt là un programme d'investissement dans des startups dirigées par des femmes. Du coup, pour préparer, on l'espère, une nouvelle génération de dirigeantes.
Oui, à noter qu'en novembre dernier, le Parlement européen a adopté des quotas pour la féminisation des conseils d'administration des grandes sociétés à l'échelle de l'Union. On verra si ça change quelque chose. Merci beaucoup, Laure Frémicourt. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site, l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À très vite.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.